l'Iran affirme que la relance de l'accord nucléaire de 2015 est possible si les États-Unis font preuve de souplesse. En Cisjordanie, l'armée israélienne a été prise pour cible par des tirs et au Kenya, le vice-président sortant déclare officiellement président élu. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé lundi 15 août qu'un accord sur la relance de l'accord de 2015 concernant le programme nucléaire iranien était possible dans les prochains jours si les États-Unis faisaient preuve de flexibilité en fournissant des garanties sur les demandes de l'Iran. Actuellement, nous échangeons des messages avec les États-Unis sur trois questions spécifiques, a dit M. Amir Abdollahian, ajoutant. Nous avons dit clairement aux États-Unis que si nos points de vue sur ces trois questions, qui sont raisonnables, étaient assurés, nous étions prêts à rentrer dans la phase d'annonce d'un accord. Le chef de la diplomatie iranienne a révélé que la partie américaine avait fait preuve de flexibilité sur deux questions, dans une certaine mesure, lors des récents entretiens à Vienne, indiquant que cette flexibilité doit être traduite en texte. La troisième question est également importante pour l'Iran, a-t-il affirmé, car elle est liée aux garanties nécessaires à la levée des sanctions américaines. M. Amir Abdollahian a souligné que le gouvernement iranien ne lierait pas l'économie du pays au résultat des négociations à Vienne. Le dernier cycle de négociations sur le dossier nucléaire iranien s'est tenu début août dans la capitale de l'Autriche. Après une interruption de 5 mois, le 8 août, l'Union européenne a présenté un texte final de son projet de décision sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 en attendant les décisions politiques des participants aux discussions de Vienne. L'ambassade de la République islamique d'Iran en Russie a annoncé lundi 15 août qu'une délégation de haut rang de l'état-major général des forces armées du pays est arrivée à Moscou pour participer à la conférence internationale sur la sécurité. À son arrivée à Moscou, le dimanche 14 août, la délégation a été reçue par Kazem Jalali, ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de la Fédération de Russie. Selon les informations fournies par l'ambassade d'Iran à Moscou, cette année, la République islamique d'Iran participe activement à tous les événements de l'exposition militaro-technique internationale Army 2022, organisée par le ministère russe de la Défense. Des représentants de 9 pays, à savoir la Biélorussie, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Thaïlande et la Turquie, seront présents à cette exposition. Dans la soirée du lundi 15 août, l'armée israélienne a annoncé que ses soldats avaient essuyé des tirs dans la région de Tul Karem en Cisjordanie à partir de deux différents endroits, affirmant par ailleurs que les tireurs étaient à bord d'un véhicule. Annonçant l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs des tirs, certains médias sionistes rapportent que les forces de l'armée israélienne ont été prises pour cible alors qu'elles effectuaient une mission de patrouille dans le nord de Tul Karem. Le site d'information Valla affirme que la fusillade a fait plusieurs blessés dans le rang des soldats israéliens, dont certains sont dans un état critique. Parmi eux figure un officier du 90e bataillon qui se trouve en état de mort cérébrale. La chaîne Al Jazeera, citant l'armée israélienne, a fait état de l'envoi de davantage de troupes à Tul Karem. Selon la chaîne 7 de la télévision israélienne, les forces du Shabak ont également été dépêchées sur place pour participer à l'opération de recherche qui jusqu'à présent n'a mené à rien. Le lundi, dans l'après-midi, la base militaire de Zelikan appartenant aux forces turques à Mossoul, dans le nord de l'Irak, a été visée par 4 roquettes de 122 mm. A rapporté la chaîne Telegram de Sabari News, ajoutant que l'attaque n'avait pas fait de victime. Le groupe Liva Ahrar Irak a revendiqué l'attaque à la roquette contre la base turque. Les groupes de résistance irakiens ont averti à plusieurs reprises la Turquie qu'elle devrait quitter le territoire irakien et que les opérations de résistance se poursuivraient jusqu'à l'expulsion de tous les soldats turcs de ce territoire. C'est dans ce contexte qu'une source de sécurité dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, a révélé que des avions américains avaient mené une opération de reconnaissance et de patrouille sans précédent sur la base aérienne d'Ayn al-Assad dans la région d'Al-Bardadi, dans l'ouest d'Al-Anbar. En outre, des sources ont signalé l'atterrissage simultané de plusieurs avions de combat à la base et le transfert des cargaisons. Une série d'attaques drones a touché lundi 15 août la base militaire américaine à Al-Tanf, en Syrie. Une attaque a été menée par 3 drones contre une base des troupes américaines à Al-Tanf, dans l'est de la Syrie, a affirmé le CENTCOM US, prétendant qu'aucune victime ni dégâts n'est à déplorer et que les drones ont été repoussés. D'autres sources d'informations indiquent pourtant que les drones kamikazes équipés de missiles ont mené à bien leur mission, touchant leurs cibles malgré tous les efforts de l'armée américaine pour les intercepter. Entre le 20 octobre et le 23 novembre, deux attaques aux missiles et aux drones de la résistance ont ciblé les positions américaines en Syrie centrale et orientale, l'une visant Al-Tanf, la première base illégale US dans le triangle frontalier Syrie-Irak-Jordanie, base qui sert aussi de relais d'opérations aériennes à l'entité sioniste. Située dans la province de Homs et à 24 km du passage frontalier d'Al-Tanf dans le désert syrien, la base militaire qui abrite quelques 900 militaires américains se situe à proximité de la frontière jordanienne avec la Syrie et non loin de celle de l'Irak. L'attaque contre la base américaine est intervenue quelques heures après que les médias d'État syriens ont rapporté que des avions israéliens avaient lancé une série de frappes aériennes sur des cibles proches de la capitale Damas et de la ville côtière de Tartous, qui abrite une base navale russe. L'agence de presse officielle Sana a déclaré que 3 soldats ont été tués et 3 autres blessés. Des pertes matérielles ont également été signalées. Le vice-président sortant du Kenya, William Ruto, a remporté l'élection présidentielle, a annoncé lundi soir, 15 août, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. M. Ruto a recueilli 7 176 141 voix, soit 50,49% du total des suffrages exprimés devant le vétéran Raila Odinga, chef de l'opposition, qui a recueilli environ 6 942 930 voix, soit 48,85% des votes, a indiqué le président de la commission indépendante électorale. Le président élu, âgé de 55 ans, qui a pris la parole peu après avoir reçu un certificat confirmant sa victoire, s'est engagé à tendre la main de l'amitié à ses rivaux politiques, à unir le pays et à faire progresser la croissance et la prospérité partagée. L'annonce des résultats définitifs a été retardée du fait des échauffourées et d'annonces de fraude électorale par l'équipe de campagne de Raila Odinga. Il reste maintenant à savoir si le vétéran de l'opposition âgé de 77 ans ira ou non en justice pour contester les résultats. La République démocratique du Congo, RDC, a annoncé lundi que l'armée du Burundi a officiellement déployé un contingent dans la plaine de la rivière Ruzizi, dans la province du Sud Kivu, située dans l'est de la RDC. L'annonce de ce déploiement a été faite dans un communiqué par le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des forces armées de la RDC, FARDC, dans la zone opérationnelle du Sud Kivu. Le déploiement entre dans le cadre de la décision des chefs d'État de l'Afrique de l'Est pour traquer les groupes armés dans cette partie de la RDC. Les responsables des FARDC ont appelé la population au calme et à collaborer d'une manière franche avec les forces loyalistes et alliées afin de mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières dans cette partie du pays. Cette task force, sous le commandement des FARDC, a pour mission de traquer tous les groupes armés étrangers et locaux afin de restaurer la paix promise par le commandant suprême des forces armées de la RDC, a souligné Marc Elongo, le porte-parole des forces armées de la RDC. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre d'attrition du Hezbollah contre les avions israéliens. Le régime sioniste, qui croyait en sa force aérienne dure comme fer, soit sa soi-disant carte gagnante dans toute confrontation militaire, se voit désormais contrainte d'avouer une chose. Sa carte s'épuise, et de la pire des façons. Il y a 3 jours, les médias libanais ont fait part de l'interception d'un drone israélien dans le ciel de la vallée de Beka. Sans oublier que l'interception du drone israélien a eu lieu dans les circonstances sécuritaires délicates actuelles et sur fond des développements au sujet du dossier des frontières maritimes contestées entre le Liban et l'entité sioniste, ce développement rappelle encore une fois l'équation aérienne que le Hezbollah a imposée au régime d'occupation après la guerre du juillet 2006. Depuis la guerre de 33 jours, le Hezbollah a expédié à plusieurs reprises ses drones en mission dans le ciel de la Palestine occupée d'Israël, drones qui sont tous retournés sains et saufs à leur base. Aussi, s'est multiplié le vol des drones israéliens dans le ciel du Liban, surtout après que le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a annoncé en août 2019 que le mouvement de résistance anéantirait tout objet israélien qui entre dans l'espace aérien libanais. Il est vrai que la puissance du Hezbollah a usé la puissance aérienne d'Israël, a fait couler beaucoup d'encre, même au sein des milieux sionistes. L'expert des affaires militaires, Amos Harel, a réitéré tout récemment dans une note pour le journal Haaretz que les capacités militaires du Hezbollah à détruire la suprématie aérienne israélienne obligeraient finalement l'armée israélienne à trouver des alternatives pour la collecte d'informations et renseignements sur les activités du Hezbollah. Les milieux sionistes sont d'avis que dans de telles circonstances où les drones jouent un rôle déterminant et considérable dans les confrontations militaires, l'armée israélienne en fait recours de façon très limitée. Et cela alors que le régime se vantait tout au long de ces dernières années de sa suprématie aérienne, répétant sans cesse que le maintien de cette suprématie soit la plus importante doctrine militaire pour sauvegarder la supériorité des unités militaires est une nécessité primordiale. Mais aujourd'hui, comme le reconnaissent d'ailleurs les milieux et analystes israéliens, le Hezbollah a su défier cette puissance militaire israélienne. C'est d'autant plus important qu'Israël se voit aujourd'hui complètement encerclé et à n'avoir en main que sa seule force de l'air, affaiblie et mollasson. Et comment ? Avant cette nouvelle ère Israël-résistance, la guerre que menaient les sionistes contre celle-ci, en général, et le Hezbollah en particulier, consistait à des manœuvres d'ordre de renseignement et d'espionnage, pour lesquelles ils ont beaucoup investi dans le domaine de l'équipement d'espionnage et de reconnaissance, notamment au niveau des drones. Et voilà maintenant, 30 ans après la naissance du Hezbollah et ses combats contre l'armée israélienne, le régime n'a qu'à reconnaître que sa suprématie aérienne a été usée et qu'il fallait trouver une autre stratégie non basée sur les chasseurs pour faire face à la résistance. Les analystes militaires divisent les capacités de la force aérienne de l'armée sioniste en deux parties. L'une concerne la supervision et le contrôle, tandis que l'autre concerne les raids aériens ou par missiles et bombes téléguidées. Or, au sujet de la supervision et du contrôle, le Hezbollah a bel et bien pénétré les positions de l'ennemi sioniste à divers niveaux, tout en sauvegardant sa puissance de dissuasion et empêchant les activités d'espionnage de l'ennemi au Liban. Le Hezbollah s'est aussi acquis de renseignements sensibles, mis au grand jour, à titre d'exemple, par la diffusion récemment d'une vidéo qui dévoilait les coordonnées des positions gazières offshore israéliennes au large de la Palestine occupée d'Israël. Mais ce n'est pas tout, car parallèlement, les systèmes de défense aérienne du Hezbollah ont fait ces derniers temps preuve de succès remarquables dans l'interception des cibles sionistes, conduisant le régime à réduire le nombre de vols de ces drones dans le ciel libanais. On est témoin, par contre, des opérations successives réussies des drones du Hezbollah contre les positions de l'ennemi sioniste, un dernier drone ayant été abattu à la Beka. Quant au régime sioniste, il n'a enregistré, et cela depuis 2006, aucune opération réussie dans la collecte de renseignements sur les capacités du Hezbollah, ni aucune opération militaire ou raid aérien contre le Liban. La raison ? Il faut la chercher dans les équations de dissuasion que le Hezbollah a imposées et que les sionistes n'ont rien pu faire jusqu'à présent pour l'affaiblir. Les sionistes ont ainsi perdu peu à peu leur capacité dans le domaine du contrôle et de la supervision aérienne et des opérations d'espionnage et ont perdu du plomb dans le ciel. À ceci s'ajoute la promotion considérable des capacités militaires de l'axe de la résistance. C'est justement ce qui inquiète Tel Aviv, qui se voit bien impuissant, en dépit de tous les armes et équipements militaires lui fournis par les États-Unis et au nombre desquels figure de plus en plus exclusivement la TCA.